L'histoire d'un homme qui s'appelle Guillaume, jeune en français, et qui représente le modèle de ce qu'on pourrait appeler le juste souffrant. C'est ça? Oui. Le thème principal de ce livre, c'est un enseignement de la prophétie hébraïque sur le thème des épreuves d'un juste, c'est-à-dire de quelqu'un qui est défini dès les premiers versets du livre comme étant innocent a priori et qui cependant est l'objet de mise à l'épreuve. Bon, il y a énormément de sujets à l'intérieur de ce sujet général. Je vais simplement isoler le problème de la définition du Satan, puisque c'est le livre par excellence où cette notion apparaît. La notion elle-même apparaît dans d'autres contextes du Tanakh, mais c'est en particulier ce livre-là. Énormément de commentaires ont été écrits sur le livre de Job, énormément de livres d'ailleurs ont paru dans la littérature mondiale sur le livre de Job. En particulier, vous avez un certain nombre de textes de missionnaires. Je pense que vous pouvez les trouver dans son livre « L'existence juive », je suppose que. Et il s'y réfère souvent dans sa théorie d'explication de la Shoah. Et encore récemment, il y a quelques semaines, j'ai reçu un livre d'un auteur chrétien d'ailleurs, je ne me rappelle plus son nom, mais, et dans ce livre, il y a une bibliographie de livres sur Job qui ont paru dans toutes les langues, c'est assez faramineux. Et ça se comprend très bien parce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup la conscience en général. Comment s'expliquer cette réalité indéniable, qu'il semble bien, indéniable, il semble, enfin vous comprenez, que des innocents souffrent. En particulier dans un contexte aussi clair, on va prendre déjà le premier verset, où Hiob est défini comme un juste qui n'a pas fait de faute. Et cependant, toute l'histoire qui est racontée, c'est la mise à l'épreuve au maximum, à tous les niveaux d'épreuve possibles. Et ce qui est caractéristique de l'enseignement de ce livre, pour fermer à la fin, mais où est-ce que ça part en bas? Ah, donc c'est top. Et on ne savait rien, on va supporter ça, les épreuves de Job. Et l'élément en particulier, c'est que cette mise à l'épreuve est par l'intermédiaire d'un être assez mystérieux apparemment, puisque vous avez posé la question, et qui est appelé dans le texte Ha-Satan, le Satan. Bon. Alors on va lire d'abord la première définition de l'identité de Job. Ish haya be'eretz Utz, il y avait un homme dans le pays de Utz. Chaque mot devrait être expliqué, mais enfin je passe pour arriver à notre sujet. Iov Shemo, son nom, Job, Iov. Et cet homme était tam, intègre, le yachar, droit, le yéré Elohim, craignant Dieu, le sar merar, et s'écartant du mal. C'est le mot de tzadik n'est pas employé ici, mais c'est la définition d'un tzadik. Et nous savons à l'avance qu'il va être soumis systématiquement à des épreuves, et on va essayer de comprendre pourquoi. Enfin, ce qui mène à l'épreuve. Le problème qui sera posé, c'est pas celui que j'ai traité, quelle est la signification du fait qu'un juste puisse souffrir, mais surtout quelle est la signification de cette force qui apparaît là, qui s'appelle le Satan, et qui est, semble-t-il, chargée de cette mise à l'épreuve. Alors je continue très rapidement, sans m'arrêter sur chacun des aspects du problème. Reival Dulo Shiva Bani Meshavash Banot, il a eu 7 fils et 3 filles, Bayi Mikneu Shiva Talfetzor Meshloshot Talfetmalou. Bon, tous ces chiffres ont une importance, mais enfin, on dit qu'il a énormément, il est très riche, énormément de possessions. Et c'est le style du récit, ses fils faisaient des festins. Bait Ishyomo, chacun dans sa maison, un jour de la semaine, vous rappelez que c'était 7 fils, donc chaque jour de la semaine, le festin se faisait chez chacun des fils. Et ils invitaient leurs trois sœurs, leurs relevés du Maem, pour manger et boire avec eux. Et il arrivait, lorsque étaient achevés les jours du festin, Job envoyait Vaïkadeshem, et il les sanctifiait, et il se levait de bon matin, Vaïkadeshem, Mispar Kulam. Il offrait des sacrifices au nombre de chacun de ses enfants, qui à Mario, car Job disait, Oulai, Hatou, Badaïs, peut-être mes fils ont fauté, Bahru Elohim Bilbaram et ont blasphémé Dieu dans leur cœur, Kachaya Seyov Koleyamim, et ainsi faisait Job tous les jours. Alors on arrive à notre verset, qui est le verset 6. Je vous avais dit 7. Oui. On commence l'étude en verset 6. Vaïi Ayom, arriva le jour. Alors d'après tous les commentaires auxquels je me réfère de façon globale, sans vous donner de détails, c'était trop ample. Ce jour, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour de la mise en jugement. Vaïi Ayom, lorsque le jour, c'est Yom Hadin, le jour du jugement, est arrivé, Vayavu Bnei Elohim, venez les fils de Dieu, et donc il faut se demander qu'est-ce que c'est Bnei Elohim, premièrement. Leitiatsev à la chaîne pour se réunir en conseil auprès de Hachem, Vayavu Gama Satan Betocham, et même le Satan venait parmi eux. Donc nous avons ici deux êtres qui nous sont mystérieux, dont on n'a jamais parlé d'ailleurs, les Bnei Elohim, qu'est-ce que ça peut être? Et on sait qu'il y a aussi le Satan, mais que le Satan n'est pas de la même catégorie que les Bnei Elohim. C'est indiqué par le fait que le verset dit Vayavo Gam à Satan Bnei. C'est-à-dire, bon. Vayomer Hashem à Satan, et Hashem dit au Satan, Naïm Tavo, d'où viens-tu? Vayaran à Satan est Hashem, et le Satan répond à Dieu, à Samta Libra, Mishut Baaret, c'est pas exploré. Mishut, ça veut dire de voyager dans mes ça et là, la terre ou mikalerbar et de m'y promener. Ça veut dire je reviens d'une inspection de ce qui se passe sur terre. C'est ça que le Satan dit. Donc, je continue. Vayomer Hashem et la Satan, et Hashem dit au Satan, Asamta libra al avdi Iyo. Est-ce que tu as prêté attention à mon serviteur Job? Qui est kamohu bares, car il n'y a pas comme lui sur la terre. Ishtam veyachar, c'est un homme droit, intègre, droit. Yere Elohim Sarmera, craignant Dieu et s'écartant du mal. Vayaran à Satan et Hashem Bayoma. Et le Satan répond à Dieu en disant, Achinam Yare Yob Elohim. Est-ce que c'est gratuitement que Job craint Dieu? Halo Ata Sarta Baado Wad Beto Wad Kolacherlo Misabi. N'est-ce pas que tu l'as privilégié? Lui, sa maison, et tout ce qui lui appartient autour de lui, Maaseyadav Berachta, tu as béni l'œuvre de ses mains, Mutneu Paras Baharet, et ses possessions de troupeaux remplissent la terre. Non, c'est pas remplir la terre, mais vous voyez, se répandre sur la terre. Voulam Shalachna Yadecha, mais peut-être si tu étends ta main sur lui, Ve Ga Na, Ga, Ga, Ve Gar Bechola Sherlo, porte atteinte à tout ce qui lui appartient. Et tu verras s'il ne te maudit pas devant toi. Voyons Hashem et la Satan, et Dieu dit au Satan, voici tout ce qui lui appartient est entre tes mains, ratela vatishlach yadecha, mais ne porte pas ta main sur lui. Vaïtse à Satan, et le Satan prend congé et redescend sur terre. Vaï ayon, arriva le jour, Ubana vumnota vochim beshotinaim. Donc, vous verrez vous-même par la suite les péripéties des mises à l'épreuve. Mais je veux quand même que vous signaler un point qu'on utilisera tout à l'heure. Donc, d'abord, il perd toutes ses possessions et il reste fidèle à sa foi. Alors, le Satan dit, ben, ça ne suffit pas. Il n'a mis à l'épreuve qu'au niveau de ce qu'il possède. Ce n'est pas vraiment une épreuve. Alors, Dieu lui donne la permission de porter atteinte à ses enfants. Donc, ses enfants meurent. Il dit, mais c'est pas lui-même, c'est ses enfants. Ça pose un autre problème. Comment le sort de ceux qui ne sont pas dans le problème est intégré au problème? Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, tout ça va s'expliquer par une simple explication d'introduction du problème. Et alors, ses enfants, ben, c'est pas lui. Alors, c'est lui-même qui est atteint. Il est atteint de maladie, vous rappelez, la lèpre. Et là, il y a quand même une consigne que le Satan doit observer. Attendez que je le trouve. Voilà, prenez le verset 6 du chapitre 2. Bien. Alors je vous lis le verset 6, Vayomer Hashem et la Satan, et Dieu dit au Satan, Inoveyadecha, le voici dans ta main, Ach et Nafshoshmo, mais préserve son effet, préserve sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vous avez compris ce qui se passe. Tout ce au niveau de quoi Job peut être mis à l'épreuve est atteint. Et finalement, lui-même, il va être atteint dans sa chair, dans sa santé, etc. Mais Dieu donne une consigne dans Satan, hein, limite, et nafshor shmor. Bon, la traduction des mots, vous la comprenez, shmor et nafshor, préserve son nefesh. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non. Tiens, ça pourrait dire ça, mais ça... Attends, laisse-le parler. Tu es en train de porter atteinte à son nefesh.
Ne porte pas, parce que bon, il risque de vous mettre à l'épreuve. En venant par l'épreuve, il risque de l'atteindre et lui risque de réagir de la mort. Mais c'est son étage qui risque d'en pâtir par la suite.
C'est son
étage.
C'est compliqué ce que tu dis. Qu'est-ce que ça veut dire de le corrompre? Ne lui donne pas un pouvoir. Vous m'étonnez, les choses sont simples, marneux. Ça veut dire quoi? Non. Ce qui est mis en question, c'est si, malgré les épreuves les plus graves, il garde la crainte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ne lui enlève pas la crainte de Dieu, ça rendrait inefficace l'épreuve. Donc, si c'est vraiment... Qu'est-ce que vous voulez dire, toi? Oui. Ça veut dire ne porte pas atteinte à son intégrité de conscience. Ça veut dire ne porte pas atteinte à sa vie psychique, qui reste lucide. C'est clair? Son nefesh. Ça se relie à une des questions que vous avez posées, ne le rend pas fou. Parce que si tu le rends fou, l'épreuve n'aura aucun sens. C'est pas lui qui répond, c'est sa folie. Vous avez compris? C'est clair jusque-là? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà appris du Satan dans ces récits? Deux choses. C'est d'abord, c'est celui qui met en doute qu'un sadique est un sadique. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que, on a d'abord situé l'identité de Job, dans ce récit, comme étant le sadique exemplaire sur toute la terre. Le sadique exemplaire sur toute la terre. Et voilà que le Satan met en doute cela, devant Dieu lui-même. C'est-à-dire comme si Dieu n'avait pas de doute, mais le Satan est chargé de faire la mise en doute. Et deuxièmement, non seulement une deuxième fonction, ce Satan qui est chargé de formuler le doute possible qu'un sadique soit un sadique, est chargé de faire la preuve que de mettre en épreuve ce doute même. Est-ce que c'est clair si vous avez compris? Bon. Alors, on apprend une troisième chose qui est la plus globale, la plus importante, et retenez bien ça, ça vient de l'enseignement de Maïmonide, qui, je crois que l'une des œuvres les plus importantes de Maïmonide, c'est l'extra chapitre dans le Morée de Vosfilm sur le livre de Job. Et je crois que c'est l'essentiel de l'enseignement que Maïmonide a donné sur la conception du monde selon le judaïsme est dans ces trois chapitres. Et j'ai lu énormément de commentaires sur Job, je crois que ces trois chapitres de Maïmonide dans le Morée de Vosfilm, ça dépasse tout. Et que peut-être, encore une fois, c'est l'essentiel de tout l'enseignement de Maïmonide. Avec en plus ce qu'il a enseigné sur Abraham. Tout le reste, on peut l'apprendre dans d'autres enseignements. Pas toujours dans les mêmes nuances que Maïmonide aura donné, mais dans le contenu. Mais si Maïmonide nous aimait que pour nous enseigner cela, c'était l'essentiel. Bon, je referme la parenthèse. Donc, pour vous dire que si un jour vous voulez étudier ces questions-là, le guide, c'est Maïmonide. En tout cas, pour eux, vous savez qui c'est Maïmonide. Le Rambam. En tout cas, pour revenir à mon problème, ce qu'on apprend de façon évidente, c'est que le Satan n'est pas Dieu lui-même. C'est clair. Et donc, et je continue à dire, ça je vais expliquer, le Satan, pas Satan. Et par conséquent, l'implication la plus directe, c'est que les épreuves du type, l'épreuve de Job, ne viennent pas de Dieu. Vous savez, notez bien cela. Et vous devinez déjà le nombre de faux problèmes qui s'évanouissent dès qu'on a découvert ça, grâce à Maïmonide, qui a mis l'accent là-dessus. Enfin, c'est le pshat du récit, c'est Maïmonide qui a mis l'accent là-dessus. Parce que toute la tragédie, l'aspect tragique que représente l'épreuve de Job, dans la conscience philosophique, religieuse, spirituelle, c'est l'idée que c'est Dieu qui a fait souffrir Job. Non, le texte est clair, c'est pas Dieu, c'est le Satan. Mais, c'est très différent. C'est très différent comme nous allons voir. Retenez bien cela. Ça n'a rien à voir. Okay. Les épreuves ne viennent pas de Dieu. Ils viennent du Satan. Alors la question qui se pose est encore plus grave. on a résolu une question grave. C'est pas Dieu qui est fou, c'est le Satan. Mais c'est une question beaucoup plus grave. Qui c'est ça, le Satan, qui est fou? Est-ce que Dieu n'est pas le souverain unique et absolu de ce qui se passe dans le monde? Monothéisme intégral. Qu'est-ce que vient faire le Satan dans le monothéisme intégral? Vous avez compris le problème? Ça va la question? Bon. Alors, premièrement, je crois que je vais commencer par là. Il faudrait mettre en évidence qu'en hébreu, dans le texte du canard, il ne s'agit pas de quelqu'un, Satan. C'est-à-dire que c'est un nom propre qui désigne une personnalité autonome. C'est une fonction. Un Satan, c'est un terme qui est défini, pas un adjectif défini, mais qui est, si vous voulez, la définition d'une force, d'une fonction, et non pas de quelqu'un. De cette fonction, on a déjà appris deux choses. C'est la mise en doute, et dans l'image, qui est plus qu'une image, quand Paul le Boulache, qui nous expliquait ces deux notions qu'on a rencontrées, Ne'elokim et le Satan, c'est l'image d'un tribunal, on va appeler ça le jour du jugement, et lorsque ce tribunal se réunit, il y a un accusateur public, et l'accusateur public, c'est le Satan. C'est pourquoi on a peur de lui, parce que il dit la vérité. Laissez-moi expliquer. Ça veut dire que le Satan n'est pas méchant. Je vous apprendrai là à l'avance. Son seul souhait, c'est d'avoir tort. Seulement, comme il a raison, alors on a peur de lui. Vous avez compris le problème. Nous avons là l'image d'une fonction dont la fonction est d'être l'accusateur public au tribunal de Dieu. Du Dieu unique. Et c'est un tribunal, le juge, les témoins, l'accusateur, c'est le Dieu unique. C'est-à-dire que Satan n'est absolument pas une force autonome pour elle-même. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est Dieu lui-même qui est le juge, le témoin et l'accusateur de Dieu. Vous savez ? Bon. Mais on a appris tout à l'heure que le Satan, c'est pas Dieu, c'est un tout autre niveau que ça se passe. Alors, je peux donc définir de quelle force il s'agit. C'est quoi une chose ? Alors, n'oubliez pas, premièrement, c'est pas Satan. Ce qui serait une vision dualiste. Il y a le Dieu du bien, qui est Dieu, et puis la force du mal, satanique, qui est Satan, et qui est conflit, inimitié entre Dieu et Satan, dualisme, le Dieu du bien et le Dieu du mal. C'est pas du tout ça dans le récit de la Torah. C'est-à-dire que les traductions de la Bible, et c'est évident surtout dans les traditions du Coran que dans les traditions de l'Évangile, ont projeté sur le récit biblique une mentalité dualiste qui ont fait de Satan dans le langage chrétien, du Shitan dans le langage arabe, enfin un élément, une force opposée à Dieu lui-même. Vous avez bien remarqué que dans le récit, il y a une familiarité entre Dieu et le Satan qui est tout à fait autre que l'atmosphère d'un dualisme d'opposition de deux forces entre eux. Il est chargé de mission. Est-ce que c'est clair jusque-là? La deuxième remarque de Maïmonide va nous aider à progresser, c'est que le texte dit à sa manière que Job est tzadik. Et vous verrez d'ailleurs dans la suite du récit que toute la problématique porte sur cette question. C'est que Job est tzadik et cependant il souffre. Et en général, les amis de Job, qui sont des théologiens, prennent pratiquement. Je schématise beaucoup, parce qu'il y a là quatre amis qui sont cinq d'ailleurs, et chacun d'entre eux a une doctrine très précise, mais quatre théologiens qui sont cinq, ça vous dit quelque chose, ces choses-là. Mais le postulat, si vous voulez, général, c'est qu'en réalité, Job feint d'être un tzaddik qui n'a pas fait de faute. Et que, d'une quelconque manière, il faut déculpabiliser Dieu des souffrances injustes, entre guillemets, de Job. Parce que sûrement il y a une faute quelque part, parce que Dieu ne peut pas être injuste. Et il y a là, au niveau de ces explications théologiques, deux erreurs, nous dit Maïmonide. Premièrement, il raisonne comme si c'est Dieu qui avait envoyé les épreuves. Le texte dit très clairement que ce n'est pas Dieu qui a envoyé les épreuves. Le texte dit que Dieu a donné la permission à une force qui s'appelle le Satan de mettre en doute la caractère de tzadik de Job. Est-ce que c'est clair? C'est très différent. Alors que les théologiens raisonnent comme si c'est Dieu qui avait envoyé une épreuve, il faut trouver une explication, et ce n'est pas par hasard une punition. Et lorsque Dieu se révèle aux amis de Job à la fin du livre, il dit, vous êtes des méchants parce que vous avez dit du mal de mon serviteur Job qui n'a jamais fait de mal. Okay. Mais voyez, où sont les deux erreurs? Premièrement, de raisonner comme si c'est Dieu qui avait envoyé les épreuves. Et c'est pas facile, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le Satan n'a aucune autonomie, donc d'une certaine manière, ça vient de Dieu lui-même, c'est clair. Hein? Oui. Mais laissez-moi en parler pour vous expliquer. C'est la première difficulté. Et la deuxième remarque de Maïmonide, c'est que le texte confirme donc jusqu'à Dieu lui-même qui confirme que Job est tzaddik, mais il ne dit en aucun cas qu'il est Talmid Chacham, qu'il comprend ce qui se passe. C'est-à-dire, s'il était Talmid Chacham, il comprendrait que ces épreuves sont nécessaires dans l'ordre du fonctionnement du monde dans lequel il se trouve, et que ces épreuves ne sont pas du tout des épreuves vraiment qui posent le problème tragique de la contradiction entre la justice de Dieu et la souffrance du juste. Bon, j'ai dit beaucoup de choses dans la même phrase, je reprends point par point. J'espère que ça vous sera très rapidement clair. Et après, je reviendrai sur l'explication de fond. C'est-à-dire, premièrement, il faut comprendre que le Satan n'est pas une entité différente de Dieu, il est chargé de mission. C'est une des volontés du Créateur unique qui a pour fonction, en tout cas dans ce contexte, le Satan en général a 7 fonctions différentes, mais j'en prends que 2 dans ce contexte-là. La mise en doute de la qualité de Tzadik, et deuxièmement, la mise à l'épreuve de cette mise en doute de la qualité de Tzadik, et à travers le fonctionnement du monde. C'est pourquoi le terme est défini de façon impersonnelle, à Satan, et non pas Satan. Donc, premièrement, il n'y a pas d'autonomie du Satan, et deuxièmement, il faut comprendre en quoi ce n'est pas Dieu qui envoie ses épreuves à travers le Satan, c'est le fonctionnement du monde qui font que ces épreuves sont ce qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle c'est le Satan lui-même qui propose à Dieu, dans ce contexte, le type d'épreuve. Dieu se borne à lui dire, c'est entre tes mains. Fais la preuve de ce que tu dis. Tu as une mise en doute de ce que Job est tzaddik, eh bien, mets cette mise en doute à l'épreuve. Mais c'est le Satan qui invente les manières de le mettre à l'épreuve. Est-ce que c'est vrai? Alors, ces manières de le mettre à l'épreuve sont très, de façon très cohérente, découlent de l'argument du Satan. Quelle est la mise en doute? Peut-être que s'il est Yireh Elokim, c'est parce qu'il est nanti des bénédictions que tu lui donnes. Alors, le fonctionnement de la mise à l'épreuve est très simple. Enlève-lui ses bénédictions. Comment ça se passe? C'est le fonctionnement du monde qui fait que c'est comme ça. Deuxième remarque de Maïmonide. Si Job était Talmid Chacham, il comprendrait que ça vient du fonctionnement du monde, et donc il n'y a pas le scandale que pose la question des théologiens à ses amis. Le scandale viendrait, le scandale tragique, de ce que de façon injuste, chinam, contre gratuite, Dieu s'amuse, si j'ose dire, à faire souffrir un tzaddik pour savoir s'il est vraiment tzaddik. C'est de là que viendrait le caractère de scandale. Maïmonide répond à deux niveaux. Premièrement, un Talmid Chacham sait que ces épreuves-là, ce n'est pas des épreuves, et je vais l'expliquer après. Deuxièmement, s'il était Talmid Chacham, il comprendrait que cela procède, j'ajoute, premièrement, que ce ne sont pas des épreuves qui posent le scandale. Le scandale serait la maladie mentale. C'est pourquoi Dieu dit, cet âme ne touche pas à ça. C'est clair jusque-là? Bon. Et, c'est-à-dire la perte de lucidité, de responsabilité. Et deuxièmement, que c'est le fonctionnement du monde qui mène ces épreuves, des preuves qu'on pourrait empêcher s'il y a un mérite suffisant, mais ça renvoie à un tout autre niveau de l'intervention de la Hashgacha, de la Providence. Et là, il faut donc expliquer pourquoi Job n'a plus de mérite suffisant pour éviter ces épreuves-là, mais qu'elles viennent de la mise en doute et du fonctionnement du monde, d'après les lois de la nature, dans la mise à l'épreuve. Est-ce que c'est suffisamment un peu plus clair? Oui ou non? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas encore dans ce que je viens de dire? Bon, ça je vais l'expliquer.
Et la nécessité que ça soit la nécessité que ça fasse partie du fonctionnement du monde.
Alors je commence par la deuxième partie, ça je crois que c'est simple à comprendre. C'est-à-dire, à partir du moment où, dans le langage du contexte, la permission donnée est donnée au fonctionnement aveugle, impersonnel, des lois de la nature, de fonctionner en tant que véhicule de la mise à l'épreuve de ce doute. Alors ce qui se passe, c'est, si vous voulez, pas directement Dieu qui veut donner telle ou telle épreuve à Job, c'est le fait que Job, étant mis à l'épreuve dans le monde tel qu'il fonctionne, c'est le fonctionnement du monde qui fait l'épreuve. Si Job était un Yitzhakham, il ne se poserait jamais la question que sont posées les théologiens qui ont voulu le convaincre que là était la vraie question, pour d'une certaine manière l'inciter soit à avouer qu'il a fait des fautes, soit à nier, blasphémer, que Dieu soit juste, hein, et finalement ils échouent. Sauf dans des moments de grande souffrance et de colère, que Job parle à la manière des théologiens, mais à la fin, vraiment à la fin du texte, lorsque Dieu se révèle à lui, il excuse Job de ces moments de colère, et en disant que les théologiens qui avaient dit la même chose avaient tort. C'est, je veux dire, le caractère tragique, scandaleux de l'idée qu'un juste souffre est évacué s'il était à notre enfant. Alors, premièrement, je vais expliquer la première chose et ensuite la deuxième. En quoi ces épreuves-là, ce n'est pas vraiment des épreuves? Parce que ça fait partie des biens provisoires, transitoires de la vie de ce monde-ci. Que dans tous les cas, un jour, Job va mourir et quitter ce monde-ci. Par conséquent, que tous ces biens-là, des possessions, des maisons, des richesses, des troupeaux, des enfants, la vie heureuse qui nous a été décrite et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, c'est contingent. Un jour, ça doit disparaître en fumée. Même les enfants, ces enfants sont destinés à mourir un jour. Je vais tout expliquer sur vos problèmes. Ça veut dire que le sort, la destinée de ces enfants concerne ces enfants. Dans tous les cas, ces enfants, un jour, mourront. Le tragique, le scandale vient de ce qu'ils ne meurent pas apparemment à leur heure et qu'ils semblent avoir être morts pour éprouver Job. Mais il y a là deux problèmes complètement différents, la destinée de Job, la destinée de ses enfants. Et vous suivrez en détail dans le texte comment le Satan va graduer les mises à l'épreuve. Bon, ça, il n'a pas blasphémé là-dessus. Parce que ça, au fond, c'est pas grand-chose. Il a perdu ses troupes. C'est lui perdre ses fils et ses filles. Là, tu verras bien qu'il blasphème pas. Non, il n'a pas blasphémé. Bon, ça, et finalement, ses fils, ses filles ont leur propre destinée. C'est arrivé, c'est eux que ça concerne, c'est leur histoire à eux, pas la sienne. Donc, il n'a pas blasphémé. Touche dans sa chair sur lui. Il est touché dans sa chair, il n'a pas blasphémé. C'est la durée de l'épreuve qui fait que finalement, Job pose la question pourquoi. Vous comprenez? Et tout ça, tout ce qui lui est arrivé. Mais j'ai bien conscience que c'est difficile pour vous d'entendre ça parce que vous êtes encore très jeune. Vous voyez, avec l'expérience de la vie, que tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, c'est provisoire, futile, très important, parce que c'est à travers cette utilité qu'on est mis à l'épreuve, mais je veux dire que c'est provisoire, dès qu'on sait que ça va finir un jour, c'est déjà fini. Est-ce que c'est clair ce que vous dites? Alors, ça c'est ce que comprend le Talmid Chacham, mais Job n'est pas Talmid Chacham. Il est existentiellement celui qui souffre d'un problème qu'il ne comprend pas. Il aurait compris, Maïmonide nous dit, s'il était Talmid Chacham, mais il faut une grande vertu pour réagir au niveau des idées. C'est facile à comprendre qu'avoir 1 million de moins plutôt qu'un million de plus, c'est stupide. Okay? Avoir un jardin de plus plutôt qu'un jardin de moins, c'est stupide. Une fête de plus avec les enfants, une fête de moins, pas de fête du tout. Finalement, dans 1000 ans après, la famille des princes aztèques de la grande civilisation d'Amérique du Sud, 1000 ans après, qu'est-ce que c'est? Ça fait de la peine, mais une peine théorique. Et d'ailleurs, là où ils sont, les Aztèques, ils sont fichés perdus. Donc, de l'or qu'ils ont perdu à cause des Espagnols. Vous voyez ce que je vous dis? Par conséquent, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on aura compris ce que je dois expliquer, la fonction du Satan un peu plus, le caractère tragique, scandaleux de ces deux idées fausses, que les épreuves viennent de Dieu intentionnellement, comme s'il s'agissait d'un despote qui jouerait à mettre en éprouvette la vertu de cette sagesse. Okay? Ça s'est évacué. C'est le fonctionnement du monde qui fait ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est la question. Pourquoi cette mise en doute apparaît dans la bouche de Satan? Et je vais y arriver. Deuxièmement, le fait que ces épreuves-là ne sont pas... comment dire? Ne comportent pas la question tragique, scandaleuse, de la justice de Dieu dans cette injustice. Je crois que je me suis répété, mais enfin vous avez compris le problème. Alors on reprend un peu la description de l'introduction dans le premier chapitre. On nous a décrit La vie heureuse, je ne sais pas comment on dit ça en littérature française, la vie bienheureuse. Il s'agit d'un homme qui a la conscience tranquille, il n'a jamais fait de mal. Il a de beaux enfants, 7 et 3. Et puis, il est riche. Et dans sa maison, il y a la joie du festin tous les jours. Et les enfants s'invitent l'un l'autre, et c'est la description d'une vie paradisiaque, apparemment. Il manque un élément. Lequel ? Non, il n'y aurait pas eu d'enfants s'il n'y avait pas la mère. Mais non, et la femme de Job va intervenir très souvent dans le récit. Lisez tous les deux. Pas forcément, il mange.
Non, hein ?
Bon, ça tu relirais au fait que ça vient de quelque part, qu'il n'était pas très bien. Enfin quand même, quand tu lis là le discours de Job, quand il répond à Dieu ou à un théologien, c'est un super érudit. Le livre de Job est le style de Job est un style d'une hauteur extraordinaire. Quand vous serez familier avec l'hébreu, vous verrez à quel point il y a une poésie colossale dans le style de Job. Un homme qui parle comme ça, sur mon livre. Bon, c'est un autre élément qui manque. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur intériorisé qui se referme sur lui-même. Il n'y a aucune allusion qui s'est occupée de quelqu'un d'autre qui ne soit pas sa famille. Est-ce que c'est clair que et c'est un point extrêmement important, mais il y a plus que ça. Et encore une fois, ne vous trompez pas, il n'a fait aucun mal. Mais on ne fait aucune allusion à un bien qu'il aurait. Quoi ?
Il n'a fait aucun mal, mais il n'a fait aucun
bien. Bon, c'est ça. Il n'y a aucune allusion. Alors, tous les mots sont privatifs, négatifs, dans la positivité même. Tam, Yachar, Yere, Elotim, Bessar, Mera. Vous avez entendu un hébreu, ok ? Il ne fait pas de mal, à tous les niveaux. Il n'y a pas d'allusion au fait que dans les fêtes de famille, il y a des invités. Petite parenthèse, mais je te dis, ça fait impatient de le faire. Ça fait 6000 ans qu'on l'attend, il va venir.
C'est quand même
un peu. Qu'est-ce que je voulais dire, ça m'a échappé, attendez, que je rattrape là. Oui, il y a dans le Shulchan Aruch une règle. Une fête, je dis, Pessah, Shavuot, Yom HaTzmaout, il n'y a pas d'invité, c'est pas une fête. Et en général, on invite ceux qui ont besoin d'être invités. Vous comprenez ce que je veux dire. Et même Shabbat, c'est comme ça. Et alors, on sent qu'il manque une dimension. Il y a plus que ça. Le premier tableau que je vous ai décrit, c'est vraiment la vie paradisiaque. Okay. Seulement, c'est enveloppé dans l'égoïsme, j'exagère. Okay. C'est enfermé dans une autarcie de bonheur. Il y a un élément qui manque. Deuxièmement, donc le Satan sait de quoi il parle, a priori. Pourquoi mise en doute? Ça vient bien de quelque part. Premièrement, cela. Deuxièmement, il y a un élément dans ce tableau qui est très significatif. Chaque matin, après la nuit de festin, Job offrait par précaution un sacrifice d'expiation éventuelle des fautes que ses enfants auraient peut-être fait dans leur bonheur de joie de jouissance. Alors je vous donne tout de suite la définition de ce qui se passe là. À travers un enseignement très important sur le livre de Job, qui est dans la Gemara, dans Baba Batra, si je me souviens bien, page 10. Et de 10 à 12, il y a deux pages là-bas. Il dit ceci. Ce Job-là, quand est-ce qu'il a vécu ? Indépendamment qu'on ne sait pas quel est l'endroit qui s'appelle Ruth et le temps où il a vécu. Simplement, une indication dans la Gemara, c'est avant Moïse, le Job historique, puisque c'est Moïse qui a mis par écrit le livre de Job. Donc, avant la révélation de la Torah. Et, rappelez-moi que je vous parle de ça. Nous, on sait que c'est Moïse qui a écrit le livre de Job. Je ne sais pas si j'en ai parlé un jour. Non, ça, je vais le dire. Et, on a situé Job dans l'enseignement de la Gemara, à chaque époque où il y a eu une transition dans l'histoire du monde, dans l'étoile à côte. Je vous donne quelques références. On commence à en dire Job, et on a des rapports de versets qui le justifient dans la Gemara. Job a vécu au temps d'Abraham. Job a vécu à la sortie d'Égypte. Job a vécu au temps du roi David. Et Job a vécu au temps de la destruction du temple, au temps où l'exil a commencé. Et on ajoute, et Job, c'est aujourd'hui le Rosh Hashiva de Tigalé. Ça veut dire, chaque fois qu'il y a un changement d'époque et qu'il faut s'adapter au niveau du tzaddik de l'époque nouvelle, le tzaddik de l'époque ancienne qui ne s'est pas adapté, commence à souffrir comme Dieu. Est-ce que c'est vrai? Sans qu'il y ait eu, il n'a fait aucune faute. Seulement, il est tzaddik de façon évidente dans l'époque où il vit. Voilà que la mutation d'identité de Toladot a mené à une époque nouvelle où il faut s'élever de niveau de tzaddik. Le tzaddik du temps d'Abraham, c'est Abraham. Le tzaddik du temps de Yitzhak, c'est Yitzhak. Le tzaddik du temps de Yaakov, c'est Yaakov. Le tzaddik du temps de David, c'est David. Est-ce que c'est clair? C'est lui qui reste dans la préhistoire de l'époque où il était légitime qu'il soit donc de son temps, parce que c'était son temps. Mais le temps où c'est les enfants qui vont réunir. Comprenez bien la suite? Alors, commence à souffrir, il ne comprend pas pourquoi. Parce que, quelles sont les dimensions du problème? Faute, il n'a pas fait. Ce n'est pas des fautes d'actes. C'est un défaut au niveau de l'identité, parce que la mutation d'identité a eu lieu et n'arrive pas à se réadapter. C'est clair tout ça? Bon. C'est pourquoi la Gemara nous dit tranquillement, ben Job, nous l'avons connu en temps d'Abraham. La Kabbalah a enseigné sur ce point-là, et c'était Terah. Avant qu'Abraham ne soit circoncis, Terah était le tzaddik du Dor. Quand Abraham s'est circoncis, et Terah pas encore, Terah, tzaddik, commence à souffrir. Parce que, et il ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore au niveau du tzaddik qui est devenu Abraham dans la génération suivante. Vous suivez? Mais l'analogie que je vous donnerai, c'est le thème général que j'essaie de vous faire comprendre cette année, c'est que c'est exactement le décalage entre l'identité du juif de diaspora et l'identité israélienne. C'est-à-dire le tzaddik du temps précédent, qui commence à souffrir, il ne comprend pas pourquoi, ça se voit sur la figure d'ailleurs, parce qu'il n'arrive pas à s'adapter à être le tzaddik du temps qui vient. Ça va jusque-là. Alors, ce prochain jiva de Tibériade, il doit être avec ses bains, je ne sais pas où. En tout cas, pour venir au problème, mais je vous dirais de façon beaucoup plus générale, c'est arrivé à pratiquement toutes les familles juives de notre temps. C'est-à-dire de ce temps de transition où vous avez le grand-père qui est un tzaddik parfait, ce saint homme, mais voilà, ses enfants, on ne sait pas. Alors le grand-père commence à souffrir, tout en n'ayant jamais fait aucun mal, et il ne comprend pas ce qui lui arrive, que ses enfants ne sont pas connus. Est-ce que vous avez reconnu la scène de jeu? C'est clair? Ça veut dire que la mise en doute ne porte pas sur Job vu en instantané. Il n'a fait aucun mal. Hein. Mais est-ce qu'il a transmis à ses enfants ce qui s'est passé? Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est Job qui a douté de ses enfants. C'est cette mise en doute que le Satan va mettre en lui. Vous avez compris? C'est-à-dire la contradiction de début, il n'a fait aucun mal, et pourtant il souffre, eh bien elle a été évacuée. Ça veut dire que c'est son identité de Satan qui est mise en question et on sait pourquoi. Vous avez compris? Mais n'oubliez pas que c'est un blasphème de dire qu'il avait fait du mal, il a fait aucun mal. Donc c'est un tout autre niveau que cette mise à l'épreuve doit être comprise. Alors c'était le tzaddik le meilleur de toute la terre, le texte est très clair. Le Satan vient faire son compte rendu. Qu'est-ce qui se passe sur terre? Il vient faire son compte rendu. Et Dieu lui répond, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux savoir, c'est mon tzaddik là, Abdi, où il en est? Tu as vu que c'est Dieu qui vit dans la terre. Tu as vu que c'est mon tzaddik par excellence. Et le Satan dit, on va voir ce qu'on va voir. Okay? Il faut le mettre à l'épreuve. Vous avez compris le problème? Alors, retenez bien cela. D'où vient cette mise à l'épreuve de ce que Job lui-même n'est pas sûr de ses enfants? Je vais vous donner un contraste tout de suite, puis je vais ramener de Barachot ici, en vous lisant la première Mishnah de Barachot. Vous verrez la différence entre les enfants de Rabban Gamliel et les enfants de Job. Vous avez appris cette première Mishnah de Barachot? Non, je sais bien que vous êtes une érudition encyclopédique. Est-ce que vous avez fait la guerre de 14-18? Non. Allez vite, la faire revenir. Ah voilà, alors, ça vous manque. La première Mishnah de la Maseret Brachot pose la question de savoir à partir de quand est le temps du Kriyat Shema, du Kriyat Shema du soir, et jusqu'à quand. Vous savez cela? Alors, à partir de quand est le Kriyat Shema du soir, on apprend ensuite, à travers la Gemara, que c'est à partir du commencement de la nuit qui est situé à la sortie des étoiles, et il y a une controverse, est-ce que c'est toute la nuit, jusqu'à l'aube du lendemain matin, qu'est-ce qu'il y a d'abord en français, l'aube ou l'aurore? L'aube du lendemain matin. Finalement, les Hachamim décident que c'est a priori jusqu'à minuit. Et que si on a passé minuit, et qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas dit le Kriyat Shema, il faut encore le dire, mais a priori, le temps que l'on a, c'est jusqu'à minuit. C'est clair ? Vous connaissez cette règle ? Alors voilà, on raconte. La controverse est entre les hachamim. Les hachamim ont dit « adratzot ». Les hachamim, en général, disent « c'est jusqu'à minuit qu'on a le temps de dire « Kriyat Shema » du soir ». Et rappelez-vous que si il est arrivé qu'on ait passé minuit par inadvertance, on a encore le droit de dire jusqu'au matin, mais a priori, c'est jusqu'à minuit. C'est clair ? Rabban Gamliel Omer, al sheya aler amud hashachar. Alors que Rabban Gamliel dit, jusqu'à ce que le temps de l'aube est arrivé, la fin de la nuit. Et on raconte une histoire. Ma'asé ou ba'ou banav ibet amishté. Il est arrivé ce fait que les enfants de Rabban Gamliel sont revenus de la maison du festin. Vous voyez le festin, c'est la même scène. Et en général, le festin, c'est un festin de mariage, mishté. Amoulo, et ils ont dit, la karino et chamar. Nous n'avons pas lu le fiat chamar. Ça veut dire, nous avons laissé passer minuit, comme la halakha des hachamim, on n'a pas lu. Amar Lahem, il leur a répondu, Imlo ala amud hashachar, si l'aube n'est pas encore arrivée, hayavin aten nikro. Vous avez l'obligation de le lire. Eh bien, ils savaient très bien cela. Mais étant donné que l'opinion, qu'a priori c'est toute la nuit, c'était l'opinion de leur père, d'Arka, alors qu'ils avaient le droit d'après les hachamim de lire encore, ils avaient le scrupule de se demander si, étant donné que l'autre opinion qu'ils allaient faire, c'était celle de leur père contre les hachamim, ils avaient le droit quand même. Vous avez suivi le raisonnement ? Oui ? Alors on voit une scène parallèle à la scène des enfants de Job, et c'est comme ça que commence l'enseignement du Talmud. Qui sont les enfants de Rabban Gamliel ? Eh bien, ils sont ceux qui sont aussi dans le Beit Hamishté, mais qui ont le scrupule de savoir s'ils ont encore le temps de Kriyat Shema, alors que les enfants de Job sont dans le Beit Hamishté, mais leur père doit offrir un sacrifice d'expiation le matin, parce qu'ils craignent que la nuit, dans leur trop grande jouissance, ils se sont laissés aller et ils sont tombés dans le blasphème. Vous voyez le contraste ? Alors Rabban Gamliel n'est pas Job. Le Talmud est donné aux enfants de Rabban Gamliel, pas aux enfants de Job.
Vous êtes responsable de... Hein ? Responsable de... Voilà. Les enfants.
Alors encore une fois, ne faites pas d'identification personnelle de la voisine, hein, mais c'est un problème de psychologie générale. Il y a ici la notion d'une responsabilité de la transmission de l'identité qui est extrêmement importante. Du point de vue de la halakha, quand on est dans un temps de catastrophe, on est jugé de toutes circonstances connues. Je veux dire, par exemple, dans l'analogie qu'on peut faire avec les générations du million, je pense pour ma part que c'est l'avis de l'ordre des familles de famille, que d'une certaine manière, il y a une irresponsabilité généralisée. Le peuple juif a été soumis depuis le temps du Moyen-Âge à une telle rouleau compresseur de désidentification qu'on peut dire qu'il y a un certain niveau où on peut plaider la responsabilité atténuée. C'est ce qu'on appelle un peu les circonstances exténuantes. C'est un peuple exténué, il ne reste pas moins que le problème qui est posé ici, c'est celui-là. C'est-à-dire que Job, responsable de lui-même, n'a fait aucun mal, très bien. Et alors d'où vient ce doute qu'il a lui-même que ses enfants, peut-être, ne sont pas les enfants de Rabban Gamliel ? Vous avez compris ?